Vote qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Donc là, nous allons arriver à la délibération la plus intéressante du Conseil. Le taux de participation des familles pour les voyages scolaires. Et là, je vais laisser M. Chrétien présenter cette délibération. Mais je t'appuierai.
Merci. Oui, vous vous rappelez, nous avions voté l'an passé, après avoir travaillé en commission, des nouvelles tranches pour la restauration scolaire. On s'était partiellement basé sur ces tranches-là pour définir le taux de participation, enfin le montant, pardon, de participation pour la dernière classe de neige, c'est-à-dire qu'on avait conservé ce qui se faisait habituellement, les deux tranches dans lesquelles on avait regroupé pour la tranche 1 les nouvelles tranches 1 et 2, et pour la tranche 2, toutes les autres tranches de 3 à 7. L'idée, c'était effectivement de revoir ça, parce que ce n'était pas satisfaisant d'avoir seulement deux tranches, avec moins de 7000 euros de quotient familial et plus de 7000 euros. Du coup, c'est ce qu'on a fait en commission. Donc, on vous propose du coup, et ça je pense que l'ensemble de la commission est d'accord sur ce point-là, de se rebaser sur les sept tranches qui ont déjà été votées pour les tarifs de restauration scolaire. Et par ailleurs, après, on est plutôt parti sur l'idée, à partir de ces sept tranches, de partir sur un taux de participation en pourcentage, plutôt que de fixer un montant comme on avait l'habitude de le faire, hein, puisqu'avant on était sur 210 euros et 300 euros de mémoire. Donc là, on est plutôt parti sur un taux de participation. C'est vrai qu'on en a discuté en commission. Je vous ai envoyé cette proposition avec ces taux. Jean-Marie, effectivement, tu m'as fait une réponse. Je t'avais fait une réponse qui restait dans ma boîte d'envoi, que du coup je t'ai renvoyée. Je pense que du coup tu vas avoir des choses à dire, et je vais te laisser la parole, et peut-être aussi à Céline et Jean-Paul sur ce point-là.
Donc, effectivement, parce que pour résumer, pour les personnes qui n'étaient pas à la commission jointe, commission finance, commission affaires scolaires, la première proposition du groupe majoritaire qui nous avait été transmise lors de cette commission était de faire 4 tranches. Et donc, après discussion, nous avons admis que c'était préférable de rester sur cette tranche, à la fois pour une meilleure compréhension des parents, pour que les parents aient une grille qui soit toujours identique et qu'ils n'aient pas à se poser des questions de savoir si dans un coup ils sont dans la tranche X, dans l'autre coup la tranche Y. Donc voilà, donc on avait abouti à cette solution-là, qui est une solution qui est plus lisible pour les parents, mais on n'avait pas eu le temps de trancher sur les taux de participation des familles relativement à chacune de ces tranches. Et donc, on avait demandé à Steve de travailler sur le dossier. Donc, il nous avait effectivement envoyé à Céline et à moi-même une proposition, qui est celle qu'on retrouve aujourd'hui liée dans la note explicative de synthèse de ce conseil municipal. Et en regardant de près cette proposition... On se rendait compte donc de plusieurs modifications par rapport au taux qui avait été voté pour la restauration scolaire. Donc je vous les ai résumés dans le mail que j'ai envoyé à tout le monde, donc que vous avez pu parcourir, mais enfin on peut le résumer en 5 minutes. C'est premièrement, on modifiait les taux d'évolution d'une tranche à l'autre, puisque on partait sur une augmentation constante du taux, du pourcentage, ce qui ne veut pas dire une augmentation constante en pourcentage. On est bien d'accord, hein. Donc, mais on a une augmentation, c'est-à-dire de points, en nombre de points, entre une tranche et la suivante. Et aussi, on faisait bouger les deux bas, les deux points extrêmes, puisque on augmentait de 3 points le taux de participation de la tranche la plus faible, et on diminuait de 4 points le taux de participation de la tranche la plus forte, par rapport toujours à la... Et il y avait un certain nombre de modifications intermédiaires aussi, mais celles-là, j'en parle pas réellement, parce que pour la plupart, elles sont dues au fait qu'on part sur une augmentation constante du taux, alors qu'on avait un taux qui n'était pas constant, qu'on avait ajusté par rapport aussi au fait que le seuil des tranches n'est pas une évolution constante. Donc voilà. Mais toujours pour, donc, je vous ai fait part dans mon mail de plusieurs réactions que nous avons eues. Donc la première, on peut parler sur la technique, donc sur l'évolution du constante du taux. Effectivement, même si ce n'est pas tout à fait juste relatif au fait que les tranches ne sont pas l'écart entre les tranches n'est pas constant, le fait de garder une augmentation constante du taux nous paraît, là encore, plus lisible pour les familles. Donc c'est quelque chose sur lequel on serait prêt à être d'accord et à voter sur ce point-là, même si ça défavorise quand même un petit peu la répartition initiale que l'on avait prévue pour la restauration scolaire. Sachant que si cette décision est prise aujourd'hui, il faudra sans doute l'appliquer à l'ensemble des tarifs communaux, toujours pour une question de lecture et de simplification vis-à-vis des parents. Je pense que c'est ça qu'il faut viser à terme pour éviter qu'on rediscute sans arrêt du taux de participation, du taux, etc. Même si un autre point qu'on évoquera après doit être regardé. Et après, nous, on tient absolument, et je vous le dis franchement, à ne pas modifier les barres extrêmes du barème, c'est-à-dire de rester à un taux de départ à 17% et d'arriver au taux final. Là, en l'occurrence, avec le mode de calcul qu'on propose, ça sera de 65%. Juste pour rappeler, mais c'était présent dans mon mail aussi, c'est que la tranche 1 correspond à des familles qui ont un revenu mensuel pour une famille avec deux parents et deux enfants de moins de 900 euros mensuels. Et la tranche 7 correspond aux familles qui ont un revenu mensuel supérieur à 12 000 euros, toujours, pour une famille avec deux adultes et deux enfants. Donc, parfois, quand on raisonne en dehors de ces chiffres-là, on peut être des fois surpris par le fait que certaines familles ne paieraient que 17%, d'autres paieraient 65%. Il faut voir qu'en face, les revenus des familles sont complètement différents. Et donc, on est parti de ce principe-là en gardant les deux barres à peu près identique, et on a cherché à trouver un moyen, toujours en gardant l'augmentation constante, de passer à une augmentation de constante qui permettrait de préserver ces deux barres. On a trouvé la solution, enfin trouvé une solution, hein. Je ne sais pas si elle satisfait tout le monde, c'est-à-dire qu'on augmente l'augmentation de 8 points au lieu de 7 points, on met 8 points entre chaque tranche, et en fin de compte, la tranche médiane, qui est la tranche 4, se retrouve exactement au même taux, et on a 1, 2 ou 3 points de plus sur les 3 tranches supérieures, et on a moins 3, moins 2 et moins 1 point sur les tranches inférieures, ce qui nous semble plus équitable et ce qui permet de stabiliser une fois pour toutes ces questions de barèmes et d'éviter que ces barèmes soient, je dirais, en conditions variables d'une manière ou d'une autre, entre une tarification et la suivante, etc. Donc on pourrait, si vous l'acceptez, substituer les taux qui sont prévus dans le cadre de la note explicative qui a été jointe au conseil municipal, par ceux qu'on vous propose, si ça satisfait à tout le monde. Donc, je suis convaincu aussi, et je voudrais apporter ce point supplémentaire à mon argumentation, c'est qu'il nous est souvent opposé que les familles qui ont des difficultés peuvent faire appel au CCAS. Sauf qu'il y a une grande différence entre une tarification sociale et faire appel au CCAS. Quelque part, l'appel au CCAS est une demande qui est faite sous justification, qui est analysée par le CCAS et qui est recevable ou pas. La tarification sociale, elle s'applique de droit. Et par rapport aux familles, la démarche est tout à fait différente que d'avoir une tarification sociale qui s'applique de droit ou d'avoir besoin d'aller faire une démarche, etc. Donc nous sommes convaincus que la démarche au CCAS, elle est importante, elle est primordiale, mais elle doit être en dehors d'un fait habituel, c'est-à-dire c'est pour des vraies familles qui sont en difficulté momentanément ou par rapport à leur situation, et absolument pas une solution qui doit permettre de couvrir ce que l'on appelle une tarification sociale des prestations de la commune. Et en l'occurrence, par rapport à ce qu'on voit là, le différentiel c'est 23 euros hein, sur les tranches extrêmes. C'est-à-dire que les gens qui gagnent plus de 12 000 euros par mois vont payer 23 euros de plus pour le voyage, mais ceux qui gagnent moins de 900 euros ont payé 23 euros de moins. Et je pense que ces 23 euros, ça n'a pas du tout le même poids quand on gagne 900 euros par mois ou quand on gagne 1 200 euros par mois. Dernier élément qui nous semble important, c'est qu'on était parti dans le principe de la restauration scolaire à ce que la commune participe en soutien à l'ensemble des gens, et c'était toujours le cas, puisque dans notre proposition, la commune prend quand même en charge 35%, c'est-à-dire un tiers, du voyage en classe de neige des familles qui appartiennent à la tranche 7. Donc des familles qui ont des revenus extrêmement satisfaisants. Voilà, donc notre proposition, elle était là. Écoutez, maintenant je vous la soumets, je vous l'ai envoyée par mail, vous avez pu travailler dessus. Je vous la soumets, puis vous me dites ce que vous en pensez. Quoi.
Vous voulez intervenir, Céline et Jean-Paul ?
Merci Jean-Marie pour toute cette pédagogie déployée. C'est vrai qu'en commission affaires scolaires et sportives et en commission finances du 20 septembre dernier, on était tous d'accord sur cette mise en place de cette tranche et sur une stabilisation des barèmes et une pérennisation pour le futur. Donc là-dessus, on avait vraiment convergé. Après, bon, est venu le calcul des pourcentages et je ne vais pas revenir dessus. Ce qui nous paraît important, c'est de pouvoir garantir aux familles des grilles lisibles, adaptées à l'ensemble des activités périscolaires portées par la commune. Il nous semble également important que le soutien de la commune aux familles aux plus faibles revenus soit actif et visible et correspondent à ce que nous avions évoqué en commission, même si à l'époque, on n'était pas allé aussi loin dans le calcul des pourcentages et des chiffres. Tout ceci sans augmenter, par ailleurs, la charge globale portée par la commune dans le cofinancement de ses activités. Il nous semble également peu équitable de faire porter une augmentation relativement plus importante sur les familles à faible revenu, mais Jean-Marie vient de l'expliquer, sur jouer sur les premières et septièmes tranches. Nous soutenons la contre-proposition faite par Jean-Marie Parmel. Alors je ne sais pas comment si on a possibilité de retravailler en commission ou si vous le mettez au vote.
Je vais vous donner notre position qui est la nôtre, c'est-à-dire de maintenir ce qu'on vous a proposé, donc avec un taux minimum à 20% et un taux maximum à 62%. Il s'agit d'un événement qui arrive une seule fois dans l'année, à la différence de la restauration scolaire qui est récurrente tous les jours, et une seule fois dans le cycle. Par ailleurs, c'est vrai que ça m'a quand même fait réfléchir, hein, Jean-Marie, ce que tu m'as envoyé. Je pense que pour l'avenir, on va peut-être aussi procéder différemment, parce qu'on a regardé aussi ce qui se faisait dans d'autres communes. Et dans d'autres communes, ce n'est pas un pourcentage qui est demandé aux familles, en fait, c'est une subvention qui est accordée par la mairie, par élève. Et c'est la même subvention pour tous les élèves. Et après, c'est la coopérative scolaire avec les enseignants qui organisent leur classe de neige. Je pense que c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait éventuellement réfléchir. Je ne dis pas que c'est la solution qui sera retenue in fine, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Je pense aussi qu'il faut absolument revoir le prestataire avec lequel nous avons l'habitude de travailler, puisqu'aujourd'hui nous sommes sur un coût par élève à 790 €, alors que certaines communes arrivent à faire partir leurs élèves à 390 € la semaine. Donc le coût pour la commune serait bien moindre. Voilà, je pense qu'il y a des pistes de réflexion sur ce voyage scolaire, puisque c'est vraiment le seul voyage scolaire que nous avons, et qu'il faut toutes les regarder. Mais en attendant, nous maintenons notre proposition de délibération avec les taux qui sont affichés.
Avec peut-être revenir aux 8 points entre les différentes, au lieu d'avoir 7 points, revenir faire une augmentation comme tu l'as proposé. En revanche, on y a beaucoup réfléchi et on se dit que ce voyage scolaire, c'est une fois dans le cycle. Nous allons absolument baisser le coût pour les familles, parce qu'aujourd'hui, le coût est élevé quand on a un voyage à 790 €, donc c'est un coût qui est élevé. Nous allons baisser ce coût parce qu'on se rend compte que finalement, on peut avoir des choses beaucoup plus intéressantes ailleurs. Donc, on va baisser le coût pour les familles. Après, on a fait un tarif social pour la cantine. C'est tous les jours, 4 jours par semaine, toute l'année. Là, on a vraiment fait un tarif pour les gens qui ont des difficultés. Donc, on a vraiment fait les 7 tranches et on a voulu aider les familles en difficulté. Là, c'est un voyage qui se fait une fois par cycle, une fois par an, une fois par cycle, une fois par an, une fois par cycle. Donc, on s'est dit qu'on pouvait rester sur ces pourcentages-là, avec peut-être une meilleure avoir. Donc, nous, on aimerait rester là-dessus. Voilà. Donc, on a expliqué, on a dit ce qu'il en était, et surtout les améliorations qu'on va apporter sur... Voilà.
Donc, vous connaissez notre position. Si vous ne dérogez pas à ça, c'est autant une question de principe hein, que de tarif. On voit que les différences de tarif restent modestes, pas pour les familles modestes, mais restent très modestes pour les familles des tranches supérieures. Nous, on ne pourra pas voter pour cette proposition. Hein. Je vais être très franc avec vous. C'est une question de principe, c'est-à-dire que on a voté l'année dernière quelque chose qui faisait l'objet d'une négociation importante. Vous vous souvenez quand même qu'à l'époque, nous étions partis sur un écart encore plus important, puisqu'on souhaitait mettre le repas à 1 €. D'accord ? On a accepté un certain nombre de choses, chacun a fait une part du chemin. Hein. Vous avez accepté des choses, nous avons accepté des choses, et on est arrivé à une part de chemin, et on est arrivé au tarif de la restauration scolaire qui a été proposé et voté à l'unanimité l'année dernière. Pour nous, revenir sur une répartition de nature différente, et notamment toucher au seuil, minimum et maximum, pour nous, revient à renier une partie de ce pourquoi on a voté l'année dernière. Donc, ça peut paraître une décision qui n'a pas un impact financier, ça a un impact financier non négligeable pour les familles modestes, mais en tout cas, c'est aussi une question de principe. C'est-à-dire qu'on estime qu'il n'y a pas de raison d'opérer de cette façon-là. En tout cas, vous pouvez laisser au vote la proposition telle qu'elle est là, mais si vous ne la touchez pas, nous, on votera contre. Voilà. Dernier point quand même, qui est en dehors de cette proposition qui avait été faite là, on avait suggéré aussi, mais ça fera l'objet sans doute d'une autre délibération, qui est celle de faire évoluer les seuils des tranches. Pourquoi il est important de faire évoluer les seuils des tranches ? Parce que il y a eu l'inflation qui est passée par là, il y a des augmentations de salaire, et il est très important que les familles ne se retrouvent pas, pour quelques augmentations d'euros de salaire, passer d'une tranche à une tranche supérieure, que ce soit pour la restauration scolaire ou que ce soit pour d'autres prestations. Donc je pense que le travail qu'on aura à faire sur l'évolution de ces seuils de tranche sera aussi un travail important, parce que significativement, c'est pas totalement neutre pour les familles. En moyenne, le taux d'inflation cette année a été de 5,2. Le taux d'augmentation des salaires a à peu près été de l'ordre de 4,5 dans le privé et un peu moins dans le public. Donc voilà, donc c'est quand même pas négligeable. Il peut y avoir des familles qui étaient juste à la limite qui se retrouvent dans les tranches supérieures. Je vous rappelle que ça a été fait pour les barèmes de l'imposition sur le revenu. Hein. Voilà, donc juste dernier élément.
Je voulais donc juste rajouter que nous allons voter contre et Jean-Paul, on aimerait que notre position soit très précisément écrite dans le compte-rendu du conseil municipal. Parce qu'on s'est déjà fait taxer comme ça d'incompréhension sur d'autres points, parce que la raison pour laquelle on votait contre une décision n'était pas indiquée dans le compte-rendu. Et ça ne suffit pas, le compte-rendu vocal. Les gens, ils regardent pas forcément ça. Ils n'écoutent pas forcément ça. Donc voilà, je te demande à ce que ce soit très précisément indiqué dans le compte-rendu.
Juste dans le contexte économique et social actuel, c'est vrai que c'est un signal qui me paraît assez négatif, lancé aux familles les plus à mal dans la commune. surtout pour un impact qui n'est pas global, qui n'aura pas d'incidence sur la part prise en charge par la commune. Donc, d'un point de vue, pour ces raisons et pour un point de vue aussi social et philosophique, nous voterons contre également.
Donc, du coup, nous avons 5 contre, qui s'abstient ? Ok, adopté à la majorité. Donc, 5 contre et adoption à la majorité. La délibération concernant la convention de location des équipements sportifs.
En 2010, la commune avait convenu avec le lycée Saint-Joseph-Pierre-Rouge la mise à disposition des stades municipaux à titre onéreux. Donc une convention avait été signée et les élèves donc utilisaient les installations 3 jours par semaine depuis cette date. En 2023, il nous a paru opportun donc d'établir une nouvelle convention. Afin de tenir compte d'une part que cet établissement n'utilise plus les 2 stades mais n'utilise maintenant que le stade synthétique et d'autre part de modifier le prix de cette location puisque depuis 2010 donc elle était de 10 € par heure et compte tenu des frais d'entretien du stade, elle n'était plus très appropriée, il fallait la modifier. Ce qui revient, Madame le maire a pris contact avec le chef d'établissement qui a accepté ce nouveau montant, qui donc passe de 10 à 15 € de l'heure, en sachant qu'actuellement, ils utilisent les installations 4 jours par semaine pour un total de 14h10. Et donc, cette augmentation leur paraissait acceptable. Et donc, nous vous demandons d'approuver cette décision. Est-ce qu'il y a des questions ?
Deux questions. La première question, c'est ça correspond à combien d'heures par semaine ? 14 heures ?
Je viens de dire 14 heures. À 14 heures,
d'accord, je n'avais pas entendu. La deuxième question, c'est à quoi ça correspond 15 €? Ça correspond à quoi ? On fait payer quoi ? C'est quoi la prestation ?
C'est le prix de la location du terrain.
Oui, mais ça correspond à quoi ? On l'a évalué comment ? On a des frais de lumière, on a des frais d'entretien, on a des frais de... C'est quoi ? C'est... Parce que...
C'est... L'utilisation des vestiaires, de l'eau, l'entretien d'aller sur le cours, de demander c'est l'entretien, on est passé à 15 €.
D'accord, et ça coûte pas plus cher que ça.
Eh bien écoute, à Métropole, je me suis renseignée, à Métropole, c'est 12 € de l'heure. Quand ils louent à des lycées et collèges pour aller sur leur terrain sportif.
Mais c'est un tarif préférentiel.
Oui, c'est ça, mon.
Oui. C'est un cofinancement en fait, là. C'est pas un coût, le coût complet n'est pas porté par.
Bien sûr, on ne va pas leur faire payer 30 €, enfin, ils n'ont pas de terrain de foot, donc je pense que c'est un lycée 2 du village, je pense qu'on peut quand même leur faire des tarifs préférentiels, je pense. Donc 10 € depuis 2010, je pense qu'on est largement en dessous. Maintenant, voilà, on a décidé 15 €, on est un petit peu au-dessus de ce que pratique la métropole sur des terrains qui sont en bien meilleur état que les autres.
Oui, sauf que la métropole pratique ses tarifs sur des lycées et collèges publics et pas sur de l'enseignement privé. Donc,
d'autres questions ? Non. On va passer au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Alors, la note de synthèse numéro 7, c'est la demande de subvention pour la réhabilitation du château. Donc, je vous ai déjà proposé cette demande de subvention au dernier conseil municipal. Et entre-temps, le travail a avancé et nous avons été en contact avec la Fondation du patrimoine et la Fondation Berne suite à ces rendez-vous à la mairie pour pouvoir bénéficier de l'aide de la Fondation Berne essentiellement, parce que la Fondation du patrimoine est basée sur des mécènes. Donc pour la Fondation Berne, il fallait avoir une réhabilitation plus conséquente. C'est-à-dire qu'au départ, dans la réhabilitation qui a été faite, il n'a pas été envisagé, par exemple, de faire le mur du château côté orangerie. Il n'était pas prévu de faire les murs qui donnent côté orangerie, qui donnent sur le château et qui appartiennent à la maison d'à côté. Il n'était pas prévu de faire certains escaliers. À partir du moment où le représentant de la Fondation Berne était là, nous avons fait le tour du château pour voir ensemble qu'est-ce qu'on pourrait y mettre. Et évidemment, il a trouvé énormément de choses à rajouter, ce qui fait que nous avons l'entretien des parapets qui n'était pas prévu au départ. L'entretien des parapets est fait. Pourquoi ? Parce que quand on a soulevé le lierre qu'il y a sur les parapets, tout se délite à cause de l'humidité liée aux plantes qui s'y accrochent. Donc tous les parapets sont à refaire, les marches d'escalier de l'escalier 17e et de l'escalier 18e sont absolument à refaire. L'escalier qui se trouve derrière mon bureau, c'est-à-dire à gauche quand vous regardez la mairie, n'avait pas été prévu au départ. Alors là, c'est de la pierre de Beaulieu qui est en train de partir en miettes. Et il y a énormément de travail à faire au niveau de cet escalier, parce qu'au niveau des murs, vous avez tout l'enduit qui tombe tellement il y a de l'humidité. Et les menuiseries ont cet espace-là entre la menuiserie et le mur. Donc il y a énormément d'humidité qui rentre et qui fait travailler la pierre et les enduits. Donc tout a été revu. Et c'est pour ça qu'il y a une augmentation et que nous passons à 970 000, ce qui commence pour moi à ressembler à quelque chose, parce que 685 000 euros, je trouvais que c'était un petit peu léger comme somme pour réhabiliter ce château. Là, aujourd'hui, on est allé beaucoup plus loin et c'est vrai qu'on va atteindre largement les 1 million. Et voilà, donc la Fondation Berne est très partante pour nous aider. Et la Fondation Berne donne beaucoup d'argent pour des réhabilitations de châteaux, sachant qu'à côté de ça, nous aurons bien entendu la région, nous aurons la métropole qui nous aidera, nous aurons le département et peut-être la Fondation du patrimoine si nous arrivons à trouver des mécènes, puisque ça ne fonctionne que comme ça. Voilà, c'est pour ça que je vous représente cette délibération aujourd'hui, parce que le dossier avance, il est entièrement prêt pour partir à la validation dans les différentes instances et qu'on a besoin de la délibération du conseil municipal, donc c'est pour ça que je vous la représente.
Merci. Effectivement, bien sûr, on avait noté cette augmentation de plus de 30%, enfin en gros un tiers quoi, de plus, ce qui nous paraissait conséquent. Bon, vous expliquez aujourd'hui pourquoi. On aimerait connaître, vous dites les nouveaux travaux qui vont être réalisés, mais globalement, en obtenant toutes les subventions, quel sera le reste à charge qu'on peut estimer pour la commune?
Je ne sais pas, M. Bord, parce qu'aujourd'hui, on est sur l'estimatif. Donc d'ici à ce que les travaux commencent, on ne sait pas dans combien de temps les travaux vont commencer. Ensuite, avant d'attaquer les gros travaux, on va être obligé de mettre en place un système qui s'appelle Murtronic pour tout ce qui est humidité au niveau de toutes les façades. Donc rien que les façades extérieures, on ne pourra pas les refaire tant qu'on n'aura pas mis en place pendant 18 mois ce système. Donc aujourd'hui, c'est l'estimatif. Donc peut-être que nous allons prendre aussi une augmentation de tous les matériaux. Je ne sais pas non plus, donc je ne peux pas vous dire. Et je ne sais pas de combien on va avoir, quel va être le montant des subventions, quels vont être les montants des subventions, je ne sais pas. Je ne sais pas combien la Fondation Berne va nous donner. Sur 1 million, est-ce qu'elle va nous donner 100 000 euros ou est-ce qu'elle va nous donner 600 000 euros? Je ne sais pas. Donc je ne peux pas vous dire aujourd'hui et je ne peux pas m'engager en disant la commune, ça lui coûtera 200 000, 300 000. De toute façon, c'est un projet de longue haleine qui va s'étaler sur ce mandat et sur l'autre mandat, j'en suis persuadée. Donc on fera au fur et à mesure, on programmera des dépenses sur ce mandat et l'autre et pour arriver au bout de 5 ans, 6 ans, 7 ans à la réhabilitation totale du... Vous savez, le château de Castries, ils ont mis 6 ans pour le faire. Donc, voilà. Donc aujourd'hui, on part sur un budget à estimatif de 970 000 euros. Peut-être que demain, on arrivera à 1,2 million.
Voilà. Voilà.
Mais pour l'instant, nous ne sommes pas au devis. Là, c'est juste une demande pour autoriser. La mairie, la commune autorise la demande de subvention pour réhabiliter le château. Là, on est dans l'étude, on est dans l'avant-projet. On n'est pas dans le démarrage des travaux, on est dans l'étude. Donc l'étude, on a eu tous les estimatifs sur la grande façade, la façade de l'orangerie, l'intérieur, l'extérieur, l'escalier 17e, 18e. On a un projet financier estimatif. Là, on va avec ça et on dit, bon voilà, on a un projet estimatif, est-ce que vous nous accompagnez ou pas? Et je pense que la Fondation Berne est aujourd'hui prête à nous accompagner. En dehors de la métropole, la région, où nous allons être obligés d'envoyer le projet, d'expliquer ce qu'on veut faire, enfin, etc. Ça va être un gros dossier. C'est pour ça que je pense que ça ne se fera pas en un an ou en deux ans. Ça va se faire sur les deux mandats. Hein, c'est obligatoire.
Et il y a une réhabilitation
à l'intérieur ? À l'intérieur, il y a la petite pièce qui se situe à côté de la salle des mariages qu'il faut absolument refaire. Parce que là, on n'a pas les menuiseries adéquates, on a les grands placards qui sont 18e et qui sont en train de s'effondrer, etc. Donc là, il y a un travail à faire à l'intérieur, et il y a les escaliers, les deux escaliers à reprendre à l'intérieur. Oui. Après, à l'intérieur, il y a aussi les caves. On a un gros problème d'humidité au niveau des caves, puisqu'on a, quand on va avoir la période des pluies, on a de l'eau qui rentre au niveau de la cave de gauche en descendant. On a beaucoup de choses à reprendre à l'intérieur, quand même. On a toutes les menuiseries des caves. Il y a une fenêtre dans une cave qui est en plexiglas. Donc, il y a beaucoup de choses à refaire en intérieur aussi. Mais le plus gros, je pense, des travaux restera sur l'extérieur. Les façades, les escaliers, les parapets, le dallage, comment ça s'appelle, le balcon qui est devant le secrétariat. Toutes les dalles sont déchaussées, il faut tout enlever, il faut faire un réagréage, il faut remettre les dalles, les repositionner, faire les évacuations d'eau, enfin bon, il y a beaucoup de choses. Et dedans, on a intégré aussi tout le côté électrique, puisque dans les caves, on n'a pas l'électricité adéquate. On voudrait mettre des spots pour pouvoir éclairer le château à certains moments, donc avec des horloges pour pouvoir déclencher la nuit de telle heure à telle heure pour ne pas trop dépenser d'électricité, etc. Donc je pense que ça va être une très belle réhabilitation, mais qui va s'étaler sur le temps.
Moi, j'avais une question. Bon, le château, c'est aussi la mairie. On a des obligations qui se font de plus en plus précises sur l'accès aux personnes en situation de handicap. Est-ce que ces aspects-là, ils ont bien été intégrés au projet aussi ?
Tout à fait. Alors, il y a déjà un accès au niveau des terrasses qui a été envisagé. Cet accès, c'est un... J'aime pas dire ce mot, mais un mont de charge qui permet aux fauteuils roulants de pouvoir descendre. Ce mont de charge... les ABF l'ont accepté si on le mettait complètement à l'extrémité de la place à côté de la mairie. Donc là, pour être le plus discret possible et arriver sur la première terrasse. Et l'entrée de la mairie sera revue aussi pour permettre une entrée beaucoup plus facile pour les fauteuils roulants. Voilà, ça a été vu dedans aussi.
Est-ce que l'aménagement des terrasses a été envisagé ou pas, le réaménagement des terrasses jusqu'au Lez, toute cette partie-là ?
Non, non. C'est vraiment non. Non, pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, on a beaucoup de propriétés privées et on arrive jusqu'au Lez sur des propriétés privées. Donc là, non, ça n'a pas du tout été envisagé. Donc là, c'est vraiment la première et la deuxième terrasse avec l'escalier de la poterne, qui est un escalier très ancien, hein, la porte qui est tout en bas des terrasses. Celui-ci sera réhabilité aussi. Donc non, on s'est arrêté aux deux terrasses, on n'est pas allé plus loin. On va passer, pas d'autres questions ? On va passer au vote, donc qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. Je vous remercie. Alors, la note de synthèse numéro 8, c'est donc la demande de caution pour la location de la grande salle du Devezou. Donc, comme vous le savez, cette grande salle du Devezou pose beaucoup de soucis quand on la loue pour des grandes manifestations. Donc, nous avons décidé de mettre en place une caution qui sera demandée à tous les locataires, à tous les loueurs de la salle. Donc, cette caution, on l'a fixée à 3000 euros. On l'a voulu élever parce qu'on voulait vraiment que les gens qui signent la location pour cette salle du Devezou s'engagent. Parce qu'aujourd'hui, on louait la salle du Devezou et puis il n'y avait rien derrière. On faisait la fête, les rideaux étaient tachés, abîmés, les murs tachés, abîmés, le carrelage, etc. Et les gens repartaient, et la fête avait lieu, et les gens repartaient. Je pense qu'il est plus tolérable que ça se passe comme ça dans notre salle. Aujourd'hui, on a refait les rideaux, on a une belle salle, il y a beaucoup de communes qui nous envient d'avoir une salle comme celle-ci, donc je pense qu'il faut la protéger absolument. Donc nous avons pensé mettre une caution élevée de 3000 euros pour la location de la salle, pour des manifestations, je vous le répète, de type mariage, baptême, communion, anniversaire, voilà, où il y a beaucoup de monde, sachant que cette location est gratuite pour les Montferrirains. Et elle est payante pour, par exemple, un CA d'une banque quelconque, ils loueront la salle pour faire leur CA. Là, je ne vous parle que des événements familiaux. Des événements, mariage, etc., etc., ce que j'ai nommé. Donc là, on demande une caution de 3000 euros, et comme ça, on sera sûr que ça se passe.
Cette caution sera demandée à tout le monde.
Ah, bien sûr.
Du village ou pas du village.
Complètement.
Si on demande une caution, ça veut dire qu'il faut aussi demander systématiquement un état des lieux. Parce que comment est-ce qu'on saura s'ils ont esquinté quelque chose?
Bien sûr. Mais comme c'est Jean-Michel Guzman qui fait la location, Jean-Michel Guzman connaît parfaitement la salle. Donc, quand les gens viennent pour louer, il leur fait visiter. Il leur fait visiter la salle, il leur montre, il leur explique ce qu'il en est, montre la scène, etc. Donc, on va, ce qui serait, judicieux, c'est de faire un contrat de location. Un contrat de location dans lequel on stipulerait tout ce qu'il y a et l'état dans lequel c'est. Un contrat de location, et comme ça, les gens s'engagent sur un contrat de location, déposent une caution que nous n'encaisserons pas. Et ensuite, à la fin de la cérémonie, on verra ce qu'il en est au niveau de la salle. Et on rendra la caution. Pardon. Oui. Les gens montferriérains ou pas qui viendront dans la salle paieront une location. C'est gratuit uniquement pour les associations. Hein,
oui, bien sûr.
Vous êtes d'accord, hein. Voilà. Et maintenant, on demandera la caution pour être sûr qu'un Montferriérain ne loue pas pour un lambda extérieur qu'on ne connaît pas et qui pourrait... Voilà. Ce qui fait que si Mme de Voissel s'engage sur une caution de 3000 euros, ça sera elle qui sera responsable. Voilà. On a vraiment voulu insister parce que Jean-Michel Guzman vit des situations assez compliquées. Ça fait plusieurs années qu'il en souffre et ça c'est de plus en plus souvent. Et là, vraiment, je pense que là, maintenant, il faut absolument faire quelque chose. Donc, cette caution est très importante. Voilà.
Moi, personnellement, j'estime que c'est tout à fait logique. Hein, puisque s'il n'y a pas de caution, les lieux peuvent être vraiment...
C'est comme pour les gîtes, il y a des cautions pour les gîtes aussi. Hein.
Nous voterons cette mesure sans problème.
Ok, donc nous allons passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Adopté à l'unanimité. La dernière note de synthèse, c'est la modification du tarif du réveillon de la Saint-Sylvestre. Donc aujourd'hui, nous sommes confrontés à une augmentation extraordinaire des prix au niveau traiteur déjà et au niveau prestations, puisque vous savez que le réveillon qui se fait le 31 décembre a deux prestations qui cette année ont augmenté et le coût des matières premières pour les traiteurs, vous savez très bien que ça a augmenté aussi puisque on en a eu l'exemple pour la cantine. Donc c'est pour ça que nous avons décidé d'augmenter ce tarif du réveillon de la Saint-Sylvestre, de le passer de 90 à 100 euros pour les Montferrierins et de 110 à 125 pour et de 100 pardon à 125 pour les personnes extérieures. Sachant que j'ai fait un petit bilan du réveillon de l'année dernière, sur 170 personnes présentes, il y avait 26 Montferrierins. C'est pour ça que je pense qu'il va falloir vraiment se pencher sur ce réveillon et voir si nous allons continuer à l'assurer pour des extérieurs. Voilà, donc cette année, voilà, je vous propose ça pour ce réveillon 2023. On verra les personnes qui seront présentes à ce réveillon et en fonction, on annulera ce réveillon définitivement ou on le maintiendra, on verra, on réfléchira.
Madame Le Maire, la question que je vais vous poser, c'est question de tarif, bien sûr, mais par rapport au coût complet de la prestation, combien la mairie, en fait, verse ? Quel est le coût de la mairie ?
Alors, il me semble que l'année dernière, c'était, on avait trouvé l'équilibre. Hein.
Oui, non, parce que ça questionne sur ce que vous avez dit préalablement, à savoir qu'il y a peu de Montferrier, 26 sur 170, et on est très faible. Donc ça nous amène en gros à subventionner, entre guillemets, les gens de l'extérieur.
Bon, c'est pour ça que je vous dis, on va vraiment regarder ça de très près cette année, et ça sera peut-être la dernière année.
Mais surtout si on a un différentiel de 6 à 8 000 euros, c'est quand même.
Je
ne
pense
beaucoup.
Pas que ce soit ça. Non, je ne pense pas que ce soit ça.
Vous pourrez nous donner l'information au prochain conseil ?
Oui, je vous la fais passer même. Donc voilà pourquoi on a décidé d'augmenter cette année. Et puis voilà, on fera le bilan début 2024 et on verra pour l'année prochaine. Voilà. On passe au vote. Qui est contre ? Qui s'abstient ? Adopté à l'unanimité. Je crois que nous sommes au bout, donc nous allons passer aux questions diverses. On va commencer par Vivon Montferrier.
Oui, enfin, c'était pas, c'est pas réellement des questions, c'était juste des points de précision. Donc, on avait abordé le problème du groupe de travail petite enfance, donc on a retenu qu'il se réunira au minimum une fois, voire plutôt deux fois d'ici l'établissement du budget 2024, parce que vu que ça aura un impact quand même quelque part, c'est important qu'on le sache. Le deuxième point, c'était sur la mise en place des panneaux d'expression libre. Alors, je reviens sur cette question-là, puisque ce n'est pas la première fois qu'on la pose. Hein. Aujourd'hui, on commence à avoir des choses qui sont collées sur les vitres. Donc je pense que ces panneaux ils sont absolument indispensables pour les citoyens montferriérains. Donc on avait abordé même y compris la localisation. Il semble que les choses n'ont pas avancé, donc je voulais savoir si c'était prévu.
Les choses n'ont pas avancé parce que on sait, le groupe qui travaille sur les panneaux s'est essentiellement concentré sur les panneaux informatifs de la mairie et des associations. Donc il y a eu un gros travail qui a été fait. Là, ils travaillent sur les panneaux lumineux. Le panneau lumineux, comme vous avez pu le voir, qui est en panne. Donc là, ils travaillent sur un nouveau panneau lumineux, peut-être deux, voire trois, avec les emplacements. Et du coup, les panneaux d'affichage libre, personne n'y a pensé. Donc je l'ai dans un coin de la tête et je vais relancer le groupe sur l'affichage libre. Mais on avait dit qu'on en mettrait trois ou quatre.
Voilà. Hein, il y a une obligation, là, je vous avais donné les textes la dernière fois.
Tout à fait. Donc on avait dit un aux écoles ou aux Grèzes, un au Dévézou, et je pense qu'il en faudrait peut-être un aux Égaillères.
Voilà, moi je pense qu'un aux écoles est indispensable, puisque c'est là que visiblement il y a la plus grosse pression sur l'affichage.
Tout à fait.
Le troisième point qu'on souhaitait aborder aussi, c'est celui de l'aménagement et de la réfection des aires de jeu pour les enfants. Donc c'est un point qui avait été déjà travaillé. Il y a eu déjà des réunions dans la commission des affaires scolaires là-dessus. Mais bon, il semble que le dossier soit en stand-by. Donc on voulait juste avoir des infos, si ça bougeait, si ça avançait, s'il y avait une réunion prochaine de la commission.
Je vais convoquer une réunion. Malheureusement, les deux dernières commissions que j'ai convoquées, peu de personnes étaient présentes et je me serais quasiment retrouvé tout seul à débattre avec moi-même. Donc, c'est plutôt compliqué. Mais je vais reprogrammer une réunion, ça c'est évident. Il y aura ça à l'ordre du jour, il y aura ce dont on a parlé tout à l'heure sur réfléchir à la classe de neige. Le sujet que Brigitte a aussi évoqué sur la réfection de la cour d'école. Enfin, voilà, il y a quand même des sujets qui doivent être abordés et travaillés. Et ce sera l'objet de cette prochaine commission.
Monsieur Bord.
Oui, merci. Donc, trois questions, hein, c'est un rituel. L'école de musique, d'abord. Lors d'une réunion de Vézou le 26 mai, nous avions découvert le projet de l'école de musique, hein, présenté par l'architecte. Le projet retenu l'aurait été surtout pour son coût, vous aviez dit à l'époque, 350 000 euros. Nous avions alors commis un article le 10 juillet sur notre site intitulé « Un projet en catimini, école de musique ». Nous écrivions en conclusion de cet article que le projet retenu est prévu pour 350 000 euros. Il s'agit du projet global des études à la remise des clés. Nous serons vigilants pour vous dire si cette estimation a été respectée. Puis lors du conseil municipal du 16 février 2023, une rallonge était demandée, votée exactement 29 223,07 euros. Monsieur Jam, adjoint à travaux, précisait alors le coût initial de l'école de musique était de 330 987,45 euros. Le coût de revient global sera de 360 210,52 euros. Mais lors de l'inauguration de l'école de musique, le samedi 3 juin 2023, Madame le maire indiquait des coûts réels de cette construction. Coût de l'école de musique, 450 000 euros. Investissement de la commune, 220 000 euros, quasiment la moitié. Subvention, 230 000 euros, soit département, 80 000, métropole, 150 000. Coût confirmé, d'ailleurs, dans le bulletin municipal d'information de juin 2023. Donc, la question, c'est pourquoi ce dépassement du coût total au réel d'environ 90 000 euros sur 450 000, 9 fois 5, 45, ça fait 20%. Le coût à charge de la commune est donc plus de 130 210 euros, soit 36%, mais de 220 000 euros, soit 48,8%. Et donc la question, c'est où avez-vous prélevé cette somme d'argent supplémentaire? Et enfin, dernière question, que sont devenus les bâtiments de l'espace Lucien Michel, retombe des salles au-dessus d'un vieux village qui abritait l'école de musique? Merci.
Alors, vous parlez des 350 000 euros, ça c'était un devis estimatif de base qu'on avait donné parce que l'architecte nous avait proposé ça quand on avait fait le comparatif, sachant que l'école, il y avait un projet qui était à 750 000 euros. Il est évident que nous avons choisi cet architecte parce que 750 000 euros, ça nous paraissait énorme pour 200 mètres carrés. Donc 350 000 euros, dedans, c'était un devis estimatif, c'est-à-dire que dedans, il n'y avait pas les honoraires, il n'y avait pas l'augmentation des matériaux, etc. Donc le marché s'est avéré à 360 000 euros. Il y a eu ce fameux surcoût de 29 223 euros que nous avons voté au conseil municipal, comme vous l'avez très justement dit, et il y a eu 59 000 758 euros d'honoraires. Total, 452 687 euros, coût de l'école de musique. J'ai arrondi à 450 000 euros le jour de l'inauguration. Donc, cette école de musique nous a coûté donc 452 687 euros, sur lesquels nous avons obtenu 230 000 euros de subvention, comme vous l'avez très justement dit. Le coût à la charge de la commune donc, est prélevé sur les comptes de la commune. Nous récupérons la TVA, tout à fait. Nous récupérons 20% de TVA, et bien sûr, c'est prélevé sur nos comptes de la commune investissement sur lesquels nous avons des sous pour payer 220 000 euros pour une école de musique. Ensuite, que sont devenus les bâtiments de l'espace Lucien Michel? Aujourd'hui, il y a des associations qui font des activités. La salle de danse est restée à l'espace Lucien Michel, ainsi que la poterie. Dans la salle de la rotonde et une des deux salles de musique, il y a des associations qui y vont, le yoga, la reliure, etc., etc. Donc c'est pour l'instant, ces associations, cette salle de Lucien Michel est utilisée, elles sont utilisées pas pour des associations, et ça nous a permis de récupérer une ou deux salles pour passer cette année et pouvoir faire mettre des activités de l'ACL ou de l'aqueduc à cet endroit. Et nous permettre d'ailleurs de sortir le yoga de l'école élémentaires qui posaient problème parce qu'il y avait un souci d'horaire avec le personnel de ménage.
Merci. Le yoga, d'ailleurs, n'est pas très content parce qu'il y a en-dessus la grosse caisse.
Pardon ? Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Alors, il y a eu un mardi où il y a eu beaucoup de bruit, et l'autre mardi, il n'y a pas eu beaucoup de bruit. Alors,
je ne sais pas. Non, moi, je n'assiste pas à ce cours de yoga. Je vais au Bugadier. Mais la dame qui fait le cours de yoga ce jour-là, à la rotonde, m'a indiqué que ça pose question. Voilà.
Je n'étais pas là le premier cours, le mardi, mais on m'a dit que c'était extrêmement bruyant, ils étaient dégoûtés. J'y suis allée au deuxième cours, il n'y a pas eu de bruit. Le troisième non plus, il n'y a pas eu de bruit. Et depuis, quand je suis allée une autre fois, et ça faisait le bruit comme s'il y avait de l'orage. Il y avait quand même, on entendait, puisque c'est une école de musique qui est en haut, pas de musique, mais de danse, et voilà. Donc ça a l'air de s'arranger. Mais c'est vrai que c'est pas l'idéal.
Bon, voilà. Et comme je suis un yogi, je participe aux récriminations. Merci, donc c'était... Ok, deuxième question orale.
Attends Jean-Paul.
Oui, pardon.
Juste, non, pour préciser par rapport à ça, on a créé une école de musique, il y a encore des cours d'école de musique.
Mais non, de danse.
La danse.
Voilà, on ne comprenait pas.
Il n'y a plus de musique nulle part.
Quand tu as parlé, c'est pour
ça. Si, mais il y a quand même ces cours de grosse caisse là.
Les tambourins. Les tambours japonais, pardon.
Apparemment, on nous dit que l'école de musique n'en veut pas parce que ça fait trop de bruit. L'école de musique n'en veut pas parce que ça fait trop de bruit.
C'est pas une histoire de bruit, c'est une histoire de déplacement des tambours. Oui. Les tambours sont très gros et lourds et il n'y a pas de stockage possible pour ces tambours à l'école de musique. Du coup, ils sont au Bugadière et ils sont stockés à l'étage au Bugadière et le tambour japonais se fait au Bugadière.
D'accord.
Il ne se fait plus à l'espace Saint-Michel, il se fait au Bugadière.
Bon, voilà. C'est une petite diversion. Bon, deuxième question. Canicule et exorbité. Je vois qu'on est bien là, cher confrère. En cette fin d'été, notamment après le 15 août, Météo France annonçait une canicule, une vague de chaleur d'une sévérité exceptionnelle. Les températures atteignent des valeurs exceptionnellement chaudes dans l'Hérault et donc à Montferrier, classé en vigilance orange, voire rouge, par exemple, dimanche 20 août, avec des températures de 39 à 42 degrés maximum. Les nuits sont également extrêmement chaudes, le mercure descendant parfois à peine sous les 20-25 degrés. La chaleur a des conséquences, comme on le sait, sur la santé, notamment pour les personnes âgées. Et on sait qu'à Montferrier, il y a environ un tiers de la population qui est concernée, puisque ce sont des personnes âgées, dont je fais partie, bien entendu. Vous avez alerté sur le Facebook Ville de Montferrier et sur le site de la commune. Mais la grande majorité des personnes âgées ne consultent pas ces outils numériques. Enfin, l'étude menée sur l'ABS nous l'a conforté dans ces choses-là, puisqu'on a, fait des questionnaires papier, on a eu plus de questionnaires papier que de questionnaires via le numérique. Donc, la question posée, c'est quelles sont les autres actions que vous avez menées concernant les personnes âgées, fragiles et souvent isolées. Merci.
Donc, on a communiqué, comme vous l'avez très bien dit, mais certaines personnes âgées ne regardent pas ces outils numériques. Nous avons, malheureusement, nous avons ouvert le Deveso. Nous avons laissé le Deveso ouvert pendant cette période de grosse chaleur et nous avions gardé des bouteilles d'eau au cas où les gens auraient besoin de venir se rafraîchir ici au Deveso. Nous l'avons mis sur le site de la commune, nous l'avons mis sur le Facebook. C'est vrai qu'il est compliqué si les personnes âgées ne regardent pas du tout ces outils numériques, ne les utilisent pas, d'être au courant. On l'a mis sur le panneau lumineux aussi. Et puisque nous savons très bien que nous avons des personnes âgées qui ne sont pas au courant aussi facilement que la majorité de la population de ces actions. Nous avons fait passer le policier municipal et la SVP chez les personnes que l'on connaissait, parce que je vous rappelle qu'on a demandé aux personnes âgées depuis 2 ans de s'inscrire à la mairie pour pouvoir leur assurer une présence en cas de problème quelconque. La majorité refuse. Pourquoi ? Parce que la majorité a ses enfants, ses neveux, ses cousins. Enfin, il y a toujours de la famille ou de très proches amis qui sont là sur la commune pour pouvoir les aider. Et ceux qui sont vraiment seuls, on a les renseignements. Donc, on a fait passer pendant ces 4 jours de canicule, qui se sont produits d'ailleurs plusieurs fois, hein, une fois en juillet, une fois en août, et il y en a eu en septembre aussi. On a fait passer la SVP et le policier municipal, et à chaque fois, ça se passait très bien. Les gens répondaient, ils étaient satisfaits. Voilà.
Merci. Mon cher collègue, j'interviens pour nous, hein, parce que nous sommes beaucoup de personnes âgées, en fait. Hein. Vous devriez me soutenir. Donc, troisième question.
Avez-vous eu besoin qu'on vous apporte de l'eau ou du rafraîchissement, monsieur Porte ?
J'ai pas osé demander, mais la prochaine fois, pour que vous m'avez.
Je demanderai à Colliotte, passez-vous.
Ah, madame la maire, je pensais que vous veniez vous-même. Donc, location des salles communales, c'est la troisième question. La location de salles n'est plus possible. Plusieurs habitants du village s'étonnent qu'il ne soit plus possible de louer des salles à Montferrand, à part la salle, grande salle du Devezou. Pouvez-vous nous dire pourquoi, alors que cela a toujours été le cas auparavant et que cela permettait d'optimiser l'utilisation de ces espaces et que le prix des locations pouvait servir à les entretenir. Que ce ne soit pas possible pour les personnes extérieures au village s'entend, mais pour les Montferrands, beaucoup moins. De plus, cela éviterait peut-être les fêtes sauvages dans l'espace public, comme nous en avons de temps en temps sur l'esplanade des Aiguillères. Nombre de communes environnantes proposent cette prestation. Alors, là aussi, comme on l'a dit pour la salle de Bézou, on pourrait demander, disons, qu'une somme soit versée, hein, voilà, pour louer ces salles, quoi. Ces petites salles, parce qu'on n'a pas toujours besoin de la grande salle, quoi. Ou je pense aussi à la salle.
On n'a jamais eu de demande de location de petites salles pour parler Montferrand. Donc c'est pour ça que je suis étonnée de votre question. C'est essentiellement la salle du Devezou pour le hall. Oui, ça oui, c'est
deux
salles.
Mais pour des festivités comme ça, non, vous n'avez pas eu.
Ah non. Non, c'est pour ça que je suis étonnée. Je regardais M. Capot si avant ça se faisait, mais non, on n'en a pas. C'est pour ça que je n'ai pas compris votre question.
Je vous ai posé, c'est que déjà, on me demandait, mais c'est pas possible, on n'a pas droit à des salles.
On a
autre part, voilà, c'est pour ça.
Mais ils cherchent des petites salles à louer, moi, je n'ai jamais eu de demande. Jamais. Après, j'ai beaucoup de demandes d'associations, j'ai beaucoup de demandes d'associations caritatives, etc. Mais d'individus. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai que le soir aussi. Il faut dire, on a quand même 60 associations, enfin 60 clubs hein, dans le village. Donc, c'est la quadrature du cercle pour arriver à mettre tout le monde tourné pour les horaires dans toutes les salles. Hein, c'est compliqué.
Écoutez, dans le compte rendu, je mets, il n'y a pas de demande de petites salles.
Non,
voilà.
Non, il n'y a pas
ça,
de demande.
Ça, au moins, les gens sont.
Il
n'y
a pas de demande. Voilà.
Merci.
Écoutez, nous sommes arrivés au bout du conseil. Je vous remercie et je vous souhaite une très bonne soirée.
Merci.